VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Au moins 5 kamikazes et 4 autres personnes, dont un milicien anti-djihadiste, ont été tués et 7 policiers blessés quand un commando de plus de 100 islamistes ont opéré une incursion jeudi soir dans un quartier périphérique de Maïdougouri, chef-lieu de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria, épicentre de l'insurrection de Boko Haram. Une attaque qui a conduit à des heures d'affrontement entre les assaillants et l'armée nigériane soutenue par des milices d'autodéfense. L'incursion a été finalement repoussée avec l'arrivée de renforts militaires aériens et terrestres, alors que les habitants fuyaient le quartier de Jidari-Polo au milieu d'explosions et de fusillades. Toujours concernant le bassin du lac Tchad, 22 soldats de la FMN, la force régionale mixte déployée dans le secteur contre Boko Haram, ont été tués et 75 autres blessés depuis le 5 avril, début de l'opération Enemy Fakat, contre les djihadistes. C'est ce qu'a annoncé jeudi le commandement de la force à N'Djamena au Tchad. La FMN a mené plusieurs attaques pour déloger les djihadistes des îles du lac Tchad, très difficiles d'accès, dont ils ont fait leur sanctuaire. Toujours concernant la lutte contre les djihadistes dans le Sahel, le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a indiqué jeudi que le Pentagone avait commencé à s'attaquer au problème ayant conduit à la mort de 4 soldats américains en octobre dernier au Niger. Les enquêteurs ont achevé leur investigation et leur conclusion devait être rendue publique dans les prochains jours. 4 Américains avaient été tués lorsqu'une patrouille de reconnaissance composée de 12 soldats américains des forces spéciales et 30 soldats nigériens est tombée dans une embuscade le 4 octobre à proximité du village de Tongo Tongo, à une centaine de kilomètres de Niamey, la capitale nigérienne, et près de la frontière avec le Mali. Au Mali même, le ministère de la Défense et des anciens combattants a réagi aux dénonciations du parti Parena sur l'achat des avions militaires et autres équipements pour les FAMA, les forces armées maliennes. Les hauts responsables du ministère affirment que tout a été fait dans le respect des procédures en vigueur. De Bamako, les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
Les Parena attaquent le ministère de la Défense et des anciens combattants en réplique à travers son service de communication. Pour eux, tous les avions ont été achetés en respectant les procédures et les règles de procédure en matière de marché public. Pour l'achat des avions, une équipe technique a été mise en place et les achats ont été supervisés par le ministère de l'Économie et des Finances. Pour les confrères communicateurs, aucun avion n'est en mauvais état, encore moins des vieux appareils. Les services de communication avoue qu'il n'est pas au courant que des avions soient mauvais parce que les appareils fonctionnent bien. Actuellement, les pilotes sont en formation avec les avions, sinon il n'y a aucun problème, explique un communicateur du ministère de la Défense. Avant d'ajouter qu'au moment où le Parena tenait sa conférence, l'armée avait réceptionné d'autres équipements militaires, des blindés, dit-il, et des voitures qui peuvent faire le déminage. Au dire du service de communication, les achats des avions militaires pour les FAMA ne souffrent d'aucune opacité, car tout a été fait dans la plus grande transparence et le ministère des Finances et de l'Économie peut attester. Pour terminer, ils disent qu'aucun achat n'a été fait en cash, encore moins avec de l'argent liquide. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, l'affaire Bolloré suscite des réactions. Le milliardaire français Vincent Bolloré a été placé en garde à vue mardi à Nanterre, près de Paris, et mis en examen dans un dossier de corruption en Guinée et au Togo. Une information qui ne laisse pas indifférents les cadres guinéens, proches de l'attribution de la concession portuaire à Conakry, la capitale, qui a fait l'objet d'une forte rivalité entre Bolloré et la société Jetma. Notre correspondant sur place, Zakaria Camara, fait le point.
Quelques heures après la mise en examen de Vincent Bolloré, l'occasion est opportune pour éclairer la lanterne des journalistes. La Guinée n'est pas directement mise en cause dans cette affaire. Si cela arrivait, nous saurions nous défendre, prévient Elhadj Mohamed Lamine Fofana. Le chef de la commission d'enquête dans l'affaire Jetma a aussi fait remarquer que la Guinée doit défendre son image dans le dossier Bolloré.
Dans cette affaire, c'est la Guinée qui a attaqué. n'est-ce pas, dans son honneur, pour avoir été utilisé comme un centre de corruption pour attribution de marché. Exactement, c'est l'attribution. Il faut qu'on explique dans quelles circonstances il a intervenu pour dire qu'il n'y avait aucune question sentimentale ou personnelle.
Jetma International a vu son contrat de concession du terminal à conteneurs du port de Conakry annulé en 2011 au profit de Bolloré Africa Logistique du groupe Bolloré. La même explication depuis le début de l'affaire Jetma a été entendue ce jeudi. La société a menti sur ses compétences et expériences pour obtenir la concession du terminal à conteneurs du port de Conakry, informe à son tour André Camara, directeur général de Minerve Consulting. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
République démocratique du Congo, au moins 40 civils sont morts noyés dans le nord-ouest du pays en fuyant cette semaine vers le Congo, Brazzaville voisin, des affrontements entre les FARDC, l'armée nationale et des hommes armés. Les embarcations transportant les villageois ont chaviré sur la rivière Oubangui qui marque la frontière entre les deux Congos. Selon le vice-gouverneur de la province du Sud, Oubangui, Jean Bakatoy, les faits remontent à lundi quand un mouvement de panique à Dongo a poussé la population à fuir vers le Congo-Brazzaville voisin après l'attaque d'une position de l'armée par des hors-la-loi. Une attaque qui aurait fait des victimes chez les militaires congolais. Les villageois ont tenté de fuir malgré le mauvais temps. Afrique du Sud maintenant, la ville du Cap dans le pays est une destination favorite pour les touristes étrangers. Mais ce qu'on ne voit jamais dans les pages de publicité, c'est que c'est l'une des villes les plus dangereuses du monde. Heidi Adams et Fitzpatrick ont été dans les quartiers pauvres du Cap où s'affrontent les gangs, des affrontements à mort. Un reportage rendu par Idriss Fall.
À Cape Flats, l'un des townships les plus pauvres de Cape Town, Zinaden Pelton, 14 ans, revenait de l'école lorsqu'il a été pris dans un échange de tir. Maurice Johnson Tem, grand-mère de la victime.
J'ai juste entendu des tirs et j'ai entendu quelqu'un crier. C'était Zinaden. Il était étendu par terre avec son sac sur le dos. Nous l'avons pris en toute vitesse à l'hôpital, mais sur place, j'ai vu qu'il était déjà parti.
La ville du Cap est la capitale du meurtre en Afrique du Sud avec un taux d'homicide parmi les plus élevés au monde. Le township de Cape Flats est l'épicentre d'une guerre sans merci entre gangs rivaux pour le marché de la drogue. Jean-Pierre Smith est responsable de la sécurité à Cape Town.
C'est une vie intolérable. Tout est sous pression. Vous ne pouvez pas mener à bien des programmes sportifs. Vous ne pouvez obtenir un investissement privé ni public. Vous ne pouvez pas créer d'emploi à cause du crépitement continu des balles.
Renforcé par le chômage et le désespoir, la culture de la violence est le dernier vestige de l'apartheid. Des enfants, parfois âgés de 9 ans, sont recrutés dans des bandes qui leur offrent un sentiment d'appartenance. C'est un échange meurtrier d'un prêté pour un rendu dans un commerce de drogue. La police fait comme elle peut, sans beaucoup d'effets pour contrôler plus de 130 bandes armées. Pour réduire la violence, certains se tournent vers la technologie. ShotSpotter est un système développé aux États-Unis. Il permet de localiser à temps réel des tirs. L'information est envoyée dans un centre de surveillance qui opère 24 heures sur 24 et alerte directement la police. Le pasteur Craven Angel, dans un projet baptisé Cessez le feu. Il travaille avec d'anciens membres de gangs qui parcourent les rues pour faire cesser la violence.
Notre travail est d'aller vers le tireur, l'isoler, agir sur son comportement pour qu'il cesse de tirer.
Glenn Hans est volontaire dans ce projet.
Je faisais partie d'un gang, mais j'ai changé ma vie, non pas à cause de cesser le feu, mais j'avais besoin de changer. Là, ce ne sont que les bénéfices de ce changement. Travailler pour ma communauté et redonner à ma communauté.
C'est aussi devenir médiateur, aider les bandes à résoudre leurs divergences par la discussion et non par les armes. Il est sorti de prison, connaît le langage utilisé par les gangs et dans le même temps agir comme un membre de la communauté. Avec des photos d'enfants perdus dans la guerre des gangs, des mères se consolent et prient pour le changement, espérant qu'un jour peut-être voir la fin de la violence qui leur a pris tout, sauf leur mémoire et leurs souvenirs.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui Angela Merkel, la chancelière allemande, dans un contexte de désaccord marqué entre les deux leaders sur des dossiers tels que l'accord nucléaire iranien et les tarifs douaniers. Merci de votre attention.